Voilà, frères et sœurs, je voudrais vous redire ma joie, ma reconnaissance d'être avec vous à nouveau ce dimanche. Vous me devenez précieux et je pense à vous plus que je n'aurais pensé. Voilà, je pensais que j'allais penser, oui, bien sûr, oui. Vous êtes, sachez-le, présent dans ma prière, dans ma foi. Je voudrais juste aussi vous dire, quand je viens, donc une fois par mois seulement, pour des causes de distance, je viens, hier, j'étais arrivé vendredi, en fait, hein, vendredi midi. Voilà, je suis disponible pour chacun. J'essaye de rester dans le bâtiment, mais bon, si éventuellement vous téléphonez, c'est plus simple pour se voir. Et puis n'hésitez pas, si vous en avez envie, si vous franchissez le fait que vous ne me connaissez pas beaucoup, mais si vous franchissez cela, n'hésitez pas à m'appeler, téléphone, mail. Alors, je demande solennellement aux anciens, au conseil, de diffuser mes coordonnées de la façon la plus généreuse possible. Et si je ne réponds pas au téléphone, c'est que quand je suis au culte, comme vous, bien sûr, j'ai coupé mon téléphone. Quand je vais au ciné-club le mercredi soir, je coupe mon téléphone et avec l'âge, j'ai tendance à oublier de le remettre. Donc, vous téléphonez, éventuellement vous laissez un petit message, je vous promets que je vous rappelle. Voilà, frères et sœurs, Nicolas ne le savait pas, mais... quand il a évoqué ce thème, je pense qu'il ne savait pas, quand il a évoqué ce thème de la randonnée, tout à fait exceptionnellement, parce que je le fais pour ainsi dire jamais, en général, le texte biblique suffit dans mes notes, j'ai écrit ici « Promenade au fil du psaume 19 ». Voilà. Promenade, parce que c'est un peu ce que je veux vous proposer. Dans la première slide, la toute première, quand vous êtes arrivé, vous aviez un texte biblique et puis deux personnages qui visiblement étaient en train de marcher, de randonner, avec en arrière-plan un magnifique paysage de montagne. En plusieurs étapes, c'était quelque chose d'absolument superbe, voilà. Ouais. Alors, il m'arrive souvent, moi, d'être dans cette situation-là. Bon, je vis dans un pays qui est un peu plus plat avec quelques collines, mais je profite de la moindre occasion, effectivement, pour ce genre d'expérience. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai souhaité cette promenade, ce commentaire hein, autour du psaume 19. Alors, je vais aussi préciser tout de suite, ce sera la dernière précision, j'aimerais, on ne le fera pas systématiquement, mais j'aimerais vous proposer, après cette méditation, éventuellement que vous puissiez dire quelque chose, demander un éclaircissement, dire quelque chose que ça vous a apporté. Voilà que la prédication, j'en suis totalement responsable. Tout ce qui est bon vient du Seigneur, tout ce qui est moyen ou médiocre, c'est de moi. Mais j'assume la responsabilité. Mais en même temps, elle vous appartient. Voilà. C'est une parole qui doit être ouverte. Alors, pendant quelques instants. Je veux préciser que je n'ai pas l'intention de parler de politique écologique. Je me suis baladé dans Clermont, j'ai vu un certain nombre de grands travaux, et j'ai cru comprendre que tous ceux qui ont des voitures râlent, comme partout on râle là où il y a des grands travaux et on fait des changements. Je ne m'intéresserai pas du tout aux politiques économiques, je ne veux pas en entendre parler. Par contre, la question c'est, la question écologique vous préoccupe-t-elle? C'est-à-dire la question fondamentale, celle... de la vitalité de notre monde, celle de sa dégradation par nos activités, par notre mode de vie. Je marche probablement depuis que je suis tout gosse et je suis revenu dans une région d'enfance où je me promenais en gamin et où je voyais les sauterelles sauter par centaines hein, devant moi, où les ruisseaux dans lesquels j'ai appris à pêcher donc, comme ça étaient remplis d'épinoches, de très jolis petits poissons, de vairons, d'écrevisses. Les mêmes ruisseaux aujourd'hui, je vous le garantis, n'ont plus rien. Il y avait des moulins, vous savez, ces petits machins qui sont sur l'eau, là, qui plouquent, qui avançaient. Il n'y en a plus. Il n'y a plus rien. La question qui se pose, qui est la question de la vitalité de la Terre, elle est incontournable. Et au-delà, c'est la question de la justice entre les nations, de l'impact d'un mode de vie de nations riches dont nous sommes sur d'autres nations. Je parlais cette semaine avec un frère de Châtellerault qui est pharmacien et qui est malgache. Et Châtellerault et Madagascar ont des liens. On parlait de panneaux solaires et de la possibilité de panneaux solaires sur le toit de l'église de Châtellerault. Mais il dit, tu sais, moi, les panneaux solaires, je vois les dégâts que ça fait à Madagascar dans l'exploitation du sable. C'est des questions compliquées. Mais cette question de la vitalité du monde, est-ce qu'elle est cohérente ou pas ? Est-ce qu'elle n'a rien à voir avec notre confession du Dieu créateur ? Si dans la alors, je n'ai pas regardé la confession de foi de l'Église, mais je suppose qu'il doit y avoir, presque comme peut-être même un premier point, nous confessons Dieu le créateur, Père Tout-Puissant. Est-ce qu'il y a quelque chose, une relation entre l'état du monde et la confession de Dieu comme créateur ? Alors, il y a plusieurs psaumes qui évoquent la création et qui évoquent particulièrement ce à quoi on n'est pas nécessairement sensible, la louange qui monte de la création vers Dieu. Regardez le psaume 8, regardez le psaume 148, mais j'ai choisi donc le psaume 19 et je vous en propose d'en entendre la lecture. Alors, la traduction que nous avons ici, c'est la seconde 1910. Qui est excellente, mais je ferai peut-être une remarque tout à l'heure. Donc, du chef de chœur, psaume dit de David. Le ciel raconte la gloire de Dieu. La voûte céleste dit l'œuvre de ses mains. Le jour l'annonce au jour, la nuit l'explique à la nuit. Ce n'est pas un langage. Ce ne sont pas des paroles. On n'entend pas leur voix. Leurs mesures apparaissent sur toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde. C'est là qu'il a placé une tente pour le soleil. Et celui-ci, tel un marié, sortant de sa chambre, tout content, se met en route. Tel un vaillant guerrier, il s'élance des extrémités du ciel et achève sa course à l'autre extrémité. Rien n'est à l'abri de sa chaleur. La loi du Seigneur est parfaite. Elle restaure la vie. Le témoignage du Seigneur est sûr. Il rend sage le naïf. Les directives du Seigneur sont droites, elles réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il fait briller les yeux. La crainte du Seigneur est pure, elle subsiste à jamais. Les règles du Seigneur sont vérité, elles sont toutes justes. Elles sont plus précieuses que l'or fin, que beaucoup d'or fin. Plus douces que le miel qui coule des rayons. Moi-même, ton serviteur, je suis averti par elles, et pour qui les observe, l'avantage est grand. Qui peut connaître ces erreurs involontaires ? Tiens-moi pour innocent de ce qui m'est caché, et préserve-moi des gens arrogants qui ne dominent pas sur moi, alors je serai intègre, innocent de toute transgression grave. Que les paroles de ma bouche et le murmure de mon cœur soit agréé de toi, Seigneur, mon rocher et mon rédempteur. Amen. Voilà, frères et sœurs, les cieux, ceux que nous contemplons, hein, ceux qui sont au-dessus de nous, les cieux racontent la gloire de Dieu, le firmament, la voûte céleste, proclame l'œuvre de ses mains. La gloire de Dieu, rien la gloire de Dieu, hein, le mot gloire, c'est un de ces mots qu'on utilise, on ne sait jamais trop ce que ça veut dire, hein. Mais la gloire, c'est quelque chose de Dieu, quelque chose de la vérité de Dieu qui se manifeste. La gloire de Dieu, l'œuvre de ses mains, ce monde qui est le nôtre, auquel nous appartenons aussi, hein, sont proclamées parce que c'est quelquefois nous étonne, que nous admirons la course des astres dans le ciel, leur mouvement, leur régularité, par la perfection des mécanismes de l'univers. Tout cela, dit l'Écriture, et l'Écriture le dit maintes fois, tout cela raconte la gloire de Dieu. Qui ne s'est pas émerveillé devant un ciel étoilé ? Surtout un jour ou l'autre, hein, devant un ciel brillant, presque lumineux de l'infinie multitude des étoiles, nous nous sommes émerveillés. Devant la beauté, hein, la beauté de la création. Et en général, dans à peu près toutes les églises qui utilisent un écran, à un moment ou à un autre, il y a des images de la création. De belles images, magnifiques, splendides. Et je répète, hein, les psaumes 147, 148 insistent sur cette louange de la création. Quelque chose de Dieu, quelque chose du divin, se manifeste dans le monde dans lequel nous vivons et auquel, d'une certaine manière, nous appartenons. Et je voudrais alors préciser ici, ce n'est pas simplement au regard du poète, du naïf que nous sommes tous. On peut dire aujourd'hui que cet étonnement, il est aussi vrai au regard du scientifique. Alors, je ne vous connais pas assez pour savoir si certains d'entre vous sont dans cette catégorie-là, mais ce que un philosophe qui a par ailleurs été un chrétien très engagé, Jean Brun, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Jean Brun appelait en son temps les multiplicateurs sensoriels. Ça, c'est effrayant comme terme, hein ? Oui, c'est ça, oui. Les multiplicateurs sensoriels. C'est-à-dire qu'en fait, tous les engins de la science, alors gardons les simples, hein, les télescopes, les lunettes astronomiques, les microscopes, les plus sophistiqués que vous voulez, ne sont jamais que des moyens de développer nos perceptions au-delà des limites de notre corps. Avec les jumelles, avec la lunette, je vois ce que mon œil n'est pas capable de voir. Avec le microscope, dans l'infiniment petit, je vois ce que mon œil lui-même n'est pas capable de voir. Eh bien, ces multiplicateurs sensoriaux, d'une certaine manière, ne font que étaler, rendre plus évident encore cette manifestation de Dieu dans la perfection astronomique, dans la perfection microscopique. Et puis, il y a cette espèce d'évidence, pour moi en tous les cas, qui est l'enchaînement incalculable des causes et des effets qui permettent à notre Terre d'être propice à la vie. Il ne faudrait pas grand-chose. Une relation de cause à effet qui ne fonctionne pas, et il n'y aurait plus de vie. Vous savez que les Américains qui aiment tout mettre en équation et en chiffres avaient donné, alors c'est un ordre de grandeur, bien évidemment, hein, mais disons, voilà, pour que ce monde soit propice à la vie, et pour que la vie s'y soit développée telle qu'elle s'est développée, la probabilité au regard du hasard, c'est-à-dire que c'est le hasard, c'est une des thèses proposées, elle est de l'ordre. Alors, je reviens à un temps où les imprimeries utilisaient des petits caractères en plomb, d'accord ? D'une explosion dans une imprimerie qui ferait voler tous les caractères s'envoleraient dans l'explosion et ils retomberaient exactement classés de manière à ce qu'on puisse immédiatement imprimer l'Encyclopédia Universalis. Alors, je l'ai eu de mémoire, c'est 22, 23 volumes de plusieurs centaines de pages. Il dit, voilà, l'ordre que ce monde, tel qu'il est, soit issu du hasard et de l'ordre d'une explosion dans une imprimerie qui, dont le résultat serait l'impression immédiate d'une très grande encyclopédie. Et alors, vous savez, vous avez été au lycée, je pense beaucoup d'entre vous, hein, ce bon vieil ami athée de Voltaire, hein, même lui a été forcé d'en convenir. Hein, il dit Voltaire écrit l'univers m'embarrasse. Ça m'embarrasse, hein, ça m'ennuie, ça me pose un problème. Je ne puis songer que cette horloge existe et qu'elle n'est pas d'horloger. Lui, l'athée, presque prototypique, hein, est contraint d'envisager un horloger. Nourri des psaumes, l'apôtre Paul va développer ce thème, alors dans l'Épître aux Romains, hein, bien sûr, au tout début de l'Épître aux Romains, mais il va le développer dans une perspective particulière. Il écrit ceci, c'est le chapitre 1er de l'Épître aux Romains. « En effet, depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, éternelle puissance et divinité, sont visibles dans ses œuvres pour l'intelligence, c'est-à-dire pour la capacité et le désir de le discerner. » Et parlant de nous, parlant de notre humanité, de tous, ils sont donc inexcusables, puisque connaissant Dieu, ils ne lui ont rendu ni la gloire, ni l'action de grâce qui reviennent à Dieu. Et ce raisonnement de Paul, il va aboutir à sa grande affirmation, que l'on soit juif, que l'on soit païen, hein, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le ciel raconte la gloire de Dieu, mais privés de la gloire de Dieu, nous n'avons pas accès quelque part à cette gloire, nous la supputons, nous la devinons, mais voilà. Et pour dire cette universalité de cette révélation de Dieu, hein, pour le mot révélation, dans la création, le psaume évoque le soleil vigoureux qui offre sa chaleur et sa lumière, et voilà, du soir au matin, et qui a sa course également, et auquel personne ne se soustrait. Il réchauffe, il éclaire tout le monde. Quelquefois même, on trouve en été un petit peu trop. Et Jésus reprend ce psaume comme signe d'universalité de la bénédiction de Dieu. Et Jésus ajoute, pour être très précis, sur les bons et sur les méchants. La nature bénissante est une nature qui bénit les bons et les méchants. Les jardins produisent pas seulement chez des bons chrétiens qui prient avant de jeter la semence, mais mon voisin, un non-croyant, sympathique et tolérant, tout ce qu'on voudra, mais pas plus que ça, je peux vous dire que son jardin donne beaucoup plus que le mien. Il est un vrai jardinier, hélas, je ne le suis pas. Et Jésus ajoute d'ailleurs que la pluie aussi. Et la conclusion que Jésus en tire, que ceux qui invoquent ce Père qui est dans les cieux, voyant ce qu'il fait du soleil et de la pluie, bien eux, c'est-à-dire nous, devraient aussi avoir une attitude bénissante, même envers leurs ennemis, puisque le Seigneur, par la création, par la nature, bénit et les bons et les méchants. Et j'aimerais vous rappeler, à la fin du déluge, donc ce jugement qui... symboliquement, était une espèce de disparition de la vie, hein, sur la terre, le Seigneur donne l'arc-en-ciel, hein, propose l'arc-en-ciel comme signe d'alliance dans la décision que Dieu a prise que lui, plus jamais, ne détruira la terre. Et l'arc-en-ciel, c'est quelque part ce qui associe la pluie et le soleil. Hein, les deux éléments essentiels de la fertilité de la terre, et l'arc-en-ciel, c'est un signe d'espérance. Alors, je comprends les authentiques angoisses écologiques de notre génération, et particulièrement de la jeune génération, parce que si dans notre rapport à la terre, au monde, Dieu est absent, s'il était évacué, alors disparaît l'espérance. Un jour, le soleil explosera et l'univers disparaîtra. Dieu est absent. Dire « je crois en Dieu le Créateur », confesser, c'est une déclaration d'espérance. Et quand on dit déclaration d'espérance, eh bien, frères et sœurs, ça implique, à un moment ou à un autre, peut-être, des conversions, et je ne parle pas de conversion au sens de devenir chrétien, des conversions dans la transformation d'habitudes de vie, de repères intellectuels, mentaux, sociaux, dans lesquels on fonctionne, parce qu'on est né comme ça, dans ce monde-là, c'est-à-dire de retournement intérieur. Ça implique des transformations de vie, des engagements nouveaux, et toujours. Il n'y a pas de foi en Dieu sans que cela transforme notre vie. Et c'est un chemin permanent de la vie chrétienne, une partie de ce qu'on pourrait appeler la sanctification et la transformation de notre vie, concrète, pratique, à partir de la parole de Dieu. Bon, voilà, le psaume 19, tout à coup, de manière un peu brutale, un peu sèche, alors au verset 4, tout à coup, il pose une limite à cette révélation naturelle. Ce n'est pas un récit, il n'y a pas de mots, leur voix ne s'entend pas. C'est-à-dire, c'est un langage, encore on pourrait traduire, ce n'est pas un langage, c'est non-verbal. C'est-à-dire que la nature parle de Dieu sans mots, ou plutôt que Dieu nous parle par la nature, ou plus exactement que quelque chose de Dieu se discerne. Et Paul, vous l'avez entendu dans Romains, il utilise ce verbe voir. Les perfections invisibles sont visibles dans ses œuvres. L'intelligence exige la foi. Le psaume 119 qu'on lisait le mois dernier, à multiples reprises, le psalmiste demande à Dieu, donne-moi l'intelligence de ta présence, l'intelligence de ta parole. Pas l'intelligence au sens de performance intellectuelle, c'est la sagesse, c'est la clairvoyance, c'est le discernement, c'est finalement une espèce d'affinité avec Dieu qui vient, on verra comment. Un Dieu que l'on suppose, parce que quand je constate qu'il y a un horloger, je reprends le terme de Voltaire, un horloger, mais qu'ultimement je ne le connais pas, est-il bon ou irascible ? Est-il erratique ou constant ? Cet horloger, ce Dieu, me connaît-il, moi ? Est-ce que moi, personnellement, j'existe devant lui ou est-ce qu'il y a un grand troupeau d'humanité ? Qu'est-ce qu'il attend de moi ? Silence. Ce n'est pas un récit, il n'y a pas de mots, leur voix ne s'entend pas. Vous savez que de nombreuses religions prétendent encore, pour certaines d'ailleurs, lire le destin des hommes, le destin des personnes dans les étoiles. Et ce que vous n'avez peut-être pas remarqué, mais si vous lisez dans le deuxième livre des Rois, c'est chapitre 23, vous avez l'histoire de ce qu'on appelle la réforme de Josias, la réforme religieuse, spirituelle de Josias, il nous est dit que Josias fit détruire, donc à Jérusalem, en Juda, au cœur de la piété d'Israël, il fit détruire tous les lieux de culte qui avaient été édifiés au soleil, à la lune, aux constellations du zodiaque et à toute l'armée du ciel. L'armée du ciel, ce sont les étoiles. Voilà. Et aujourd'hui, certains s'accrochent encore à l'astrologie. Mais l'Écriture dit qu'il n'y a pas de mots. On peut, pour dire les choses très simplement, on peut deviner, penser que oui, il doit y avoir quelqu'un derrière. Mais ce qu'il est, ce qu'il pense, ce que je suis pour lui, je ne le sais pas comme ça. Il y a un récit biblique qui pose une limite, on n'y pense pas toujours comme ça, mais c'est les mages. Vous savez, les mages qui viennent d'Orient, au moment de la naissance de Jésus, ils suivent une étoile. C'est une étoile qui les conduit. Quand ils arrivent à Bethléem, voici l'enfant. Ils lui rendent gloire. Puis ils repartent sans étoile. Terminé. L'enfant est là. La parole de Dieu est au milieu de nous. Plus d'étoile. Celui qui a vu l'enfant a vu la gloire de Dieu. En fait, cette partie du récit, les sept premiers versets du psaume 19, ils évoquent un témoignage extérieur. Voilà, on peut deviner, supputer, penser que derrière cette perfection du monde, il y a nécessairement, alors appelez-le comme vous voulez, hein, une puissance, une intelligence, quelque chose qui... Voilà. Mais c'est extérieur. Et avec le verset 8, le psaume amorce un virage radical. Je regarde parce que je voulais vérifier la traduction qui était proposée là. Maintenant, à partir du verset 8, comme presque en... pas en opposition, mais comme un complément qui va prendre une dimension totale, la gloire de Dieu, la vérité de Dieu, la présence de Dieu est attestée intérieurement, non plus extérieurement. Jaillit la Torah du Seigneur, la loi divine. Alors, il faudra prendre l'habitude, parce que j'ai des mauvaises manies. Je dis Torah, le mot hébraïque, hein, le terme hébraïque pour dire la loi, parce que la loi en français... C'est le code de la route, le code civil. Il y a toujours un côté assez désagréable dans la loi. Hein. Je suis bien français, j'aime pas ça. Mais la Torah du Seigneur, les directives, les commandements, les règles, cette déclinaison qui nous est familière avec le psaume 119, c'est-à-dire révélation du Seigneur, non plus dans la grande devinette de « y a-t-il un horloger ?», mais par la parole. Parole gravé sur la pierre, et pour nous, parole incarnée aujourd'hui éternellement en Jésus. Alors, une petite remarque. Dans la première partie du psaume, le terme qui est utilisé, c'est Dieu. Alors, les traductions, des fois, le mettent deux ou trois fois, mais dans le texte hébreu, il est une seule fois, Dieu. Mais Dieu, en hébreu, en l'occurrence, c'est « elle ». Comme dans Elohim, hein, c'est elle. C'est-à-dire, c'est le mot commun, c'est le terme indéfini. Même chose que Dieu en français. Quand nous disons Dieu entre nous, nous parlons de Jésus-Christ, parlons de la Trinité. Mais dans le langage courant, Dieu, c'est, allez avec les Jeux Olympiques, les dieux du stade. D'accord ? Hein, les dieux du stade. C'est-à-dire, c'est un terme très indéfini. Et à partir du verset 8, voici, alors, dans la 1910, l'Éternel, j'ai une préférence pour dire Seigneur. En fait, ce qui est en hébreu, excusez-moi cette précision, ce sont ce qu'on appelle le tétragramme, vous savez, les fameuses quatre lettres dont quelquefois on dit Yahvé. Il faut mieux l'éviter quelque part. Vous savez que les Juifs ne l'ont jamais dit. Les Juifs disaient Adonai. Et vous avez vous rappelez de ce terme, alors peut-être pour les plus anciens d'entre vous, on l'utilisait dans le temps, on disait Jéhovah. Mais Jéhovah, en fait, ce sont ces quatre lettres dans lesquelles on a mis, ce qui sont des consonnes en hébreu, on a mis des voyelles qui sont les voyelles du mot Seigneur. C'était pour éviter de dire, Yahvé, ce n'est pas nécessairement une bonne vocalisation, mais pour éviter de le dire, les voyelles, parce que l'hébreu, excusez-moi, est une langue consonantique, on mettait les voyelles de Seigneur, ça lui sort en français, et les Juifs disent « Seigneur ». Alors, « Seigneur » ou « Éternel hein, », comme vous voulez. « Seigneur » est utilisé à partir de là, et il est utilisé sept fois. Si vous pensez que c'est un hasard qui est utilisé sept fois, vous vous trompez lourdement. La symbolique numérique dans l'écriture est très forte. C'est pour dire que maintenant, la révélation vraie, accessible, totale, grande de Dieu, elle est dans la loi. Seigneur, l'Éternel, allez, Yahvé, je n'aime pas trop le prononcer, mais Yahvé, c'est le Dieu unique, c'est Dieu de l'Alliance, c'est Dieu, on met un D majuscule, c'est Dieu du salut. Seigneur, c'est le nom glorifiant le ressuscité. Hein, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre, et que toute langue confesse que le Seigneur, c'est Jésus. Ce psaume célèbre le Seigneur de la Torah, et là, on est vraiment dans la révélation intérieure, dans l'expérience qui, pour nous, l'expérience de la foi, l'expérience de la conversion, l'expérience de la vie spirituelle, de la piété. Cette parole parfaite donne vie. Elle donne sagesse, elle rend le cœur joyeux. C'est un cœur habité de paix et d'espérance. Et les versets 8 à 11 hein, célèbrent la Torah, et on va dire la joie que la parole de Dieu nous procure. Puis les versets plus vers la fin, à partir du verset 12, il confesse cette œuvre profonde dans l'âme du croyant. Le commandement du Seigneur est limpide. La création n'est pas limpide. On s'interroge, mais quelle réponse ? On ne sait pas. Le commandement est limpide, il rend clairvoyant. Il est plus désirable que l'or le plus fin, il est plus savoureux que le miel nouveau. J'ai ramené de mes randonnées dans le Cantal avec mes deux petits-fils cet été, des pots de miel de montagne du Cantal. Eh bien, c'est pas rien. Hein. Et pourtant, la parole de Dieu est plus savoureuse encore. Cette Torah, trésor goûteux, joyeux, éternel, alors ça, chose étonnante, elle conduit à la repentance et au pardon. L'expérience intime du Seigneur, qu'est la repentance et le pardon, est l'expérience la plus précieuse que nous pouvons vivre de Dieu. Repentance et pardon naissent en nous par la parole de Dieu. En vérité, je ne suis pas capable de me repentir tout seul. Je peux regretter les bêtises que j'ai faites, mais la repentance, qui nécessairement appelle le pardon et le renouveau, ce n'est que la parole de Dieu qui peut le produire en moi. C'est-à-dire qu'est célébré dans ce psaume, est célébré non pas un commandement qui écrase, un commandement insupportable, qui culpabilise, mais la Torah bénissante, bienfaisante, apaisante. J'ai eu l'occasion cette semaine de célébrer des obsèques et j'ai rencontré une des personnes de la famille, oui, un décès, pas quelqu'un de pratiquant, elle me dit, je sais, vous savez, pour moi, le christianisme, c'est quand même une religion de culpabilité, de culpabilisation, etc. Et par certains côtés, oui, c'est vrai qu'on peut facilement donner cette impression-là. C'est terrible. Mais quand j'ai essayé de lui dire, vous savez, non. C'est l'affirmation qu'au-delà de nos fautes, au-delà de nos fragilités, de nos faiblesses, de notre médiocrité, il y a le don d'un pardon. Il y a une parole qui renouvelle, il y a une parole qui apaise. Qui s'aperçoit des erreurs involontaires, acquitte-moi des fautes cachées. Quand on met ces deux parties du psaume ensemble, parce que l'un ne va pas nier l'autre, l'un ne va pas démolir l'autre, la prière qui, moi, est la mienne, c'est « Devant toi, Seigneur, je confesse avoir regardé cette terre comme n'étant que de la matière exploitable, commercialisable. Je confesse en avoir fait un instrument d'injustice. Je confesse mon péché. J'ai agi dans ce monde, avec ce monde, comme si j'en étais le propriétaire et non pas le jardinier. » Vous savez que oui, c'est Galilée, hein, a montré que le centre physique de l'univers, de notre univers, notre espace à nous, c'est le soleil. Ce n'est pas la Terre, ce n'est pas l'homme, c'est le soleil. Je ne conteste pas, hein, c'est parfaitement démontrable, c'est parfaitement vrai. Néanmoins, comme croyant, je regarde les choses d'une autre manière. Le centre de l'univers, ce n'est pas le soleil. Ça, c'est le soleil, il est le centre du mécanisme, c'est tout. Le centre de l'univers, c'est le cœur de l'homme. Mon cœur, ton cœur, est le centre de l'univers. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce texte de Jérémie, cette parole de Jérémie, quand, dans un moment extrêmement difficile, la vie du temps de Jérémie était une crise énorme, et les Juifs de Jérusalem ne comprenaient plus rien parce que Dieu avait promis la bénédiction, et puis les fleuves débordaient, noyaient tout, il y avait des inondations, il y avait des famines parce que il y avait plus de production dans les champs, que les fruits n'étaient plus là. Et à un moment, Jérémie leur dit, clairement, ce sont vos péchés qui ont tout perturbé. C'est pas simplement c'est à cause d'eux, ce sont vos péchés qui ont tout perturbé. En Jésus-Christ, nous portons aujourd'hui un regard nouveau. Et l'Épître aux Hébreux, le premier chapitre de l'Épître aux Hébreux, il unit, c'est pour ça qu'il faut garder ces deux parties du psaume bien ensemble, hein, bien cohérentes, il unit le Sauveur, parole de Dieu, et la création. Dieu nous a parlé en ces jours qui sont les derniers par un Fils, le Christ, qui a constitué héritier de tout, et il ajoute ce Fils qui soutient le monde, pas simplement qui nous soutient moi dans nos vies privées, ce qui est vrai et personnel, mais il soutient le monde par sa parole. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Le Fils Sauveur soutient le monde par sa parole. Alors, peut-on confesser cet univers comme œuvre de ses mains, comme soutenu par la parole du Christ ? Et puis en user comme des maîtres absolus, avec comme seul critère d'utilisation l'enrichissement de nos vies, la facilité de nos vies, et puis qu'importe ce qui se passe sur la face cachée de la terre. En fait, ce que dit, je crois, ce psaume, c'est qu'en Jésus-Christ, parole de Dieu, véritable Torah de Dieu, l'alpha et l'oméga, nous sommes renouvelés en cette vocation originel de prendre soin de ce que Dieu a créé, parce que ce que Dieu a créé est pour la bénédiction de tous les peuples, de toutes les nations. Et les derniers psaumes, si vous lisez les derniers psaumes, vous allez voir, d'une certaine manière, ils alternent la louange de la création et la louange du peuple de Dieu. Et je crois que cette alternance, elle me semble suggérer la communion des louanges. C'est-à-dire que dans la vraie et immense louange du Dieu éternel, il y a la louange de son peuple qui connaît sa parole, qui célèbre Jésus-Christ, qui est dans la joie et la paix de l'Épître aux Colossiens, en qui, par qui, pour qui tout a été fait. Il semble qu'il y a, dans les conséquences pour nous, de prendre soin, ainsi que cela nous avait été demandé en Genèse, prendre soin de la création qui est aujourd'hui une création qui souffre, c'est l'Épître aux Romains qui le dit, hein. C'est pas simplement tel ou tel organisme, qui souffre et qui aspire à la révélation des enfants de Dieu. Amen.